Guerre et paix, deuxième partie, chapitre 5, scène 14.
Eh bien, est-elle jolie ? Oh, la mienne, mon cher, la rose, est ravissante. On l'appelle Dunyasha,
s'écria Iline en apercevant son amie. Mais l'expression de sa figure le fit taire immédiatement. Il devina que son chef et son héros n'étaient pas d'humeur à plaisanter, car il en reçut un coup d'œil irrité et le vit s'éloigner rapidement dans la direction du village.
« Je leur en ferai voir à ces brigands !»
murmurait Rostov. Alpatych, allongeant le pas, le rejoignit enfin à grand-peine.
« Quelles sont les mesures que vous avez daigné prendre ?»
lui demanda-t-il humblement.
« Quelles mesures, vieil imbécile ?»
dit le hussard en le menaçant de ses poings fermés.
« Qu'as-tu fait, toi ? Les paysans se révoltent et tu te bornes à les regarder. Tu ne sais même pas te faire obéir. Tu es un traître. Je vous connais tous et je vous ferai tous écorcher vifs. »
Là-dessus, comme s'il eût craint d'épuiser la colère amassée dans son cœur, il continua brusquement sa route. Alpatych, refoulant le sentiment d'une offense imméritée, se mit à le suivre tant bien que mal. Il lui communiquait en marchant ses réflexions sur les paysans révoltés. Il cherchait à lui faire comprendre que, grâce à leur opiniâtre endurcissement, il serait dangereux et impolitique d'entrer en lutte ouverte avec eux sans le secours de la force armée, et que dès lors, il serait préférable de la requérir.
« Je leur en donnerai de la force armée. Ils verront, ils verront. »
répétait Nicolas sans penser à ce qu'il disait. En proie à une irritation violente et irréfléchie, il marchait résolument vers la foule groupée autour de la grange. Bien que Rostov n'eût pas de plan prémédité, Alpatych pressentait que cet acte extravagant amènerait un bon résultat. Sa démarche ferme et hardie, son visage contracté par la colère, firent également comprendre aux paysans que le moment de rendre compte de leur conduite était venu. Pendant l'entretien de Rostov avec la princesse Marie, un certain désarroi s'était déjà manifesté parmi eux. Plusieurs, que la peur commençait à gagner, assuraient que les nouveaux venus étaient bien réellement des Russes et qu'ils se fâcheraient de ce qu'on osait retenir la demoiselle. Drône, qui était de cet avis, n'hésita pas à l'exprimer à haute voix, mais Carpe et ses adhérents le prirent aussitôt à partie.
« Pendant combien d'années n'as-tu pas dévoré la commune à pleines dents ? »
s'écria Carpe.
« Tu t'en moques pas mal. Tu as enfoui quelque part un vase plein d'argent. Tu le déterreras, tu t'en iras. Que peut donc te faire à toi le pillage de nos maisons ? Nous savons qu'il a été ordonné,
criait un autre,
de ne pas quitter son village et de ne rien emporter, pas même un grain de blé. Et la voilà, elle, qui veut partir. C'était à ton dadais de fils d'être soldat, mais ça t'a fait de la peine, et c'est mon Vania à moi qui a été rasé,
dit à son tour un petit vieillard avec violence.
Il ne nous reste plus qu'à mourir, oui, à mourir. On ne m'a pas encore enlevé mes fonctions,
répliqua Drône.
C'est ça, c'est ça. Tu n'es pas encore renvoyé, mais tu t'es repu.
Aussitôt que Carpe vit venir Rostov, accompagné de Lavrouchka, d'Iline et d'Alpatych, il alla à sa rencontre, les doigts passés dans sa ceinture et le sourire aux lèvres. Drône, au contraire, s'était dissimulé dans les derniers rangs et la foule se resserra.
Hé, vous autres, qui est le staroste ?
Demanda Rostov en marchant droit sur eux.
Le staroste ? Que lui voulez-vous ?
Demanda Carpe. Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase, que son bonnet vola en l'air et que sa tête vacilla sous le coup qu'il avait frappé.
« À bas les bonnets, traître !»
cria Rostov d'une voix foudroyante.
« Où est le staroste ? »
répéta-t-il.
« Le staroste ? Il demande le staroste. Drône Zakharovitch, on t'appelle !»
dirent vivement et tout bas plusieurs voix, et les têtes se découvrirent une à une.
« Nous ne nous révoltons pas, nous obéissons aux ordres reçus. »
reprit Carpe, qui se sentait encore soutenu par quelques-uns.
« Nous avons suivi les conseils des anciens. »« Vous osez me répondre, tas de brigands ?»
s'écria Rostov en saisissant au collet le grand Carpe.
« Holà, mes amis, garrottez-le »
Lavrouchka s'élança sur lui et s'empara de ses mains.
« Il faudrait que les nôtres qui sont en bas de la montée viennent nous aider,
dit-il.
C'est inutile,
répondit Alpátych. Et, se tournant vers les paysans, il en appela deux par leur nom et leur demanda de détacher leurs ceintures pour lier les bras du prisonnier. Les paysans obéirent en silence.
« Où est le staroste ?»
répétait Rostov. Drone, le visage pâle et les sourcils froncés, se décida enfin à paraître.
« C'est toi ? Garotte-le aussi, Lavrouchka !»
s'écria Rostov avec autorité, comme si cet ordre ne pouvait rencontrer de résistance. Et en effet, deux autres hommes du groupe s'approchèrent, et Drone dénoua lui-même sa ceinture pour se faire attacher les mains.
« Quant à vous !»
poursuivit Rostov.
« Écoutez-moi tous, vous allez retourner chez vous à l'instant et que je n'entende plus un mot. Nous n'avons rien fait de mal, nous avons agi sottement, voilà tout. Je vous l'avais bien dit, c'était contre les ordres. »
murmurèrent plusieurs paysans à la fois et s'adressant mutuellement des reproches.
« Je vous en avais prévenu, »
dit Alpátych, qui se sentait rentrer en pleine possession de ses droits.
« C'est mal, très mal à vous, mes enfants. » « Oui, Jakov Alpátych, la sottise est de notre côté. »
lui répondit-on, et la foule se sépara tranquillement. Chacun regagna ses logis pendant qu'on emmenait les prisonniers dans la cour de l'habitation de la princesse Marie. Les deux ivrognes les suivirent.
« Cela te va bien !»
disait l'un d'eux à Carpe.
« Je vais te regarder à mon aise. A-t-on jamais vu parler ainsi au maître ? À quoi songeais-tu ? « Tu es un imbécile, voilà tout, un imbécile !»
répétait le second d'un air gouailleur. 2 heures plus tard, les chariots pour les bagages étaient attelés, et les paysans transportaient et emballaient les effets de leur maître sous la surveillance de Drone, qui avait été relâché sur la demande de la princesse.
« Attention à ceci !»
disait l'un des paysans, un jeune garçon de haute taille et d'une physionomie avenante, à son camarade, qui venait de recevoir une cassette des mains de la femme de chambre.
« Elle vaut cher. Ne va pas la jeter tout bêtement ou la ficeler sans soin, elle s'éraillera. Il faut que tout se fasse honnêtement et bien. Voilà, comme cela. Recouverte de foin et de natte, ce sera parfait. « Oh, les livres, ce qu'il y en a !»
disait un autre, pliant sous le poids des armoires de la bibliothèque.
« Ne me pousse pas ! Dieu que c'est lourd, mes enfants ! Quel livre ! Quel gros et beau livre ! Ma foi, ceux qui les ont écrits n'ont pas flâné !»
reprit le jeune garçon en indiquant des dictionnaires couchés en travers. Rostov, ne voulant pas s'imposer à la princesse Marie, ne retourna pas chez elle, mais attendit son départ au village. Lorsque les voitures se mirent en route, il monta à cheval et l'accompagna à 12 verstes de distance jusqu'à Yankovo, qui était occupé par nos troupes. Arrivé au relais, il prit respectueusement congé d'elle et lui baisa la main.
« Vous me remplissez de confusion, »
lui répondit-il en rougissant aux effusions de sa reconnaissance.
« Le premier Ispravnik aurait agi de même. Si nous n'avions eu que des paysans à combattre... L'ennemi ne se serait pas avancé aussi loin dans le pays. »
ajouta-t-il d'un ton embarrassé et, passant à un autre sujet.
« Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de faire votre connaissance. Adieu, princesse. Permettez-moi de vous souhaiter tout le bonheur possible et puissions-nous nous revoir dans des circonstances plus favorables. »
Le visage de la princesse Marie rayonnait d'une émotion attendrie. Elle sentait qu'il méritait ses remerciements les plus vifs, car sans lui, que serait-elle devenue ? N'aurait-elle pas été infailliblement la victime des paysans révoltés ? Ou ne serait-elle pas tombée entre les mains des Français ? Pour la sauver, ne s'était-il pas exposé au plus grand danger ? Et son âme, pleine de noblesse et de bonté, n'avait-elle pas su compatir à sa position et à sa douleur ? Ses yeux, si bons, si honnêtes, s'étaient remplis de larmes lorsqu'elle lui avait parlé, et ce souvenir restait gravé dans son cœur. En lui disant adieu, elle éprouva à son tour une émotion étrange, et elle se demanda si elle ne l'aimait pas déjà. Sans doute avait-elle honte de s'avouer à elle-même qu'elle s'était subitement éprise d'un homme qui peut-être ne l'aimerait jamais. Mais elle se consolait à la pensée que personne ne le saurait et qu'il n'y avait aucun crime à aimer en secret toute sa vie celui qui serait son premier et son dernier amour. Il a fallu qu'il arrivât à Bogoucharovo pour me rendre service. Il a fallu que sa sœur refusât mon frère, se disait-elle, en entrevoyant le doigt de Dieu dans cet enchaînement de circonstances et en caressant tout bas l'espoir que ce bonheur, à peine entrevu, pourrait un jour devenir réalité. Elle aussi avait fait une douce impression sur Rostov. Et lorsque ses camarades, qui avaient eu vent de ses aventures, se permirent de le taquiner en le complimentant sur ce qu'en allant chercher du foin, il avait eu le talent de découvrir une des plus riches héritières de Russie, il se fâcha sérieusement. Mais au fond du cœur, il s'avouait qu'il ne pouvait désirer ni faire rien de mieux que d'épouser la sympathique princesse Marie. Ce mariage ne ferait-il pas le bonheur de ses parents et le sien ? Il le sentait instinctivement, celui de la douce créature qui le considérait comme son sauveur. Et d'un autre côté, ne trouverait-il pas dans sa magnifique fortune le moyen de rétablir celle de son père ? Mais alors, que deviendrait Sonia et le serment qu'il lui avait fait ? C'était précisément ce souvenir qui l'irritait lorsqu'on le plaisantait sur son excursion à Bogoucharovo.